Doha, Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 17 novembre 2020. Bienvenue. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a averti lundi que davantage d'Américains risquent de mourir du COVID-19 si l'administration de Donald Trump continue de bloquer la transition dans un contexte d'aggravation de l'épidémie aux États-Unis. Le candidat démocrate a également exhorté les élus du Congrès à adopter d'urgence un nouveau plan de soutien à l'économie frappée par la crise sanitaire. Le bilan total aux États-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie, s'élève désormais à 10 984 398 infections et 245 470 morts depuis l'apparition du virus sur le territoire. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, ont fait état lundi de 138 025 nouvelles contaminations par le coronavirus et 660 décès supplémentaires liés à l'épidémie au cours des dernières 24 heures. La perspective de première vaccination contre le COVID-19 aux États-Unis d'ici la fin de l'année se concrétise. Après Pfizer, la semaine dernière, la société de biotechnologie Moderna a annoncé lundi que son vaccin était efficace à 94,5%. Les deux vaccins pourraient être autorisés par l'Agence américaine des médicaments, FDA, dans la première quinzaine de décembre, a dit lundi Moncef Slaoui, responsable scientifique de l'opération Warp Speed, montée par le président Donald Trump pour vacciner la population américaine. Cela permettrait de vacciner 20 millions d'Américains en priorité, sans doute les plus âgés et à risque, dès la seconde quinzaine de décembre, selon lui, puis 25 millions de personnes par mois à partir du mois de janvier. Le négociateur britannique en chef sur le Brexit, David Frost, a déclaré au Premier ministre Boris Johnson de s'attendre à un accord commercial avec l'Union européenne, et cela en début de semaine prochaine, a rapporté lundi soir de Sun, sans citer des sources. David Frost a fait état dimanche via Twitter de progrès dans les discussions avec Bruxelles ces derniers jours. Sur le continent, le roi du Maroc a mis en garde lundi contre toute menace à la sécurité de son pays après que l'ONU a confirmé des échanges de tirs entre troupes marocaines et indépendantistes du front Polisario au Sahara occidental, en appelant à la retenue. Dans un communiqué publié hier soir, le ministère de la Défense sahraoui a affirmé que les forces du Polisario ont mené lundi des attaques massives contre le mur de défense marocain scindant sur 2700 km. Le territoire désertique disputé. Après 30 ans de cessez-le-feu, le front Polisario a décrété vendredi l'état de guerre en réaction à une opération de l'armée marocaine dans une zone tampon de l'extrême sud du Sahara occidental pour rétablir le trafic routier coupé par des indépendantistes sahraouis au niveau du poste frontière de Guéguérat. Les autorités éthiopiennes accusent les forces du Tigré d'avoir emmené 10 000 prisonniers en fuyant une ville reprise par les forces gouvernementales dans cette région du nord du pays où les combats se poursuivent. Plusieurs gouvernements étrangers, dont celui de l'Ouganda, ont proposé une médiation sans succès, le gouvernement éthiopien ayant fait savoir qu'il n'en avait pas fait la demande et qu'il espérait pouvoir mettre un terme rapide à son offensive. Au moins 20 000 Éthiopiens ont fui les combats et se sont réfugiés au Soudan. 41 détenus se sont évadés dimanche de la prison de Moroni, la capitale des Comores, dont un homme poursuivi pour son implication dans une tentative d'attentat contre le président. Parmi les évadés figure Insa Mohamed, alias Bobocha, poursuivi devant la Cour de sûreté de l'État pour sa participation à l'attentat contre le président Azali Assoumani. C'était le 18 avril dernier. Des ONG qui militent pour l'amélioration des conditions de détention aux Comores ont estimé que cette évasion massive était prévisible. Et puis, en République démocratique du Congo, la célèbre chanteuse Tchala Mwana a été interpellée lundi après la diffusion en ligne d'une chanson considérée comme un pamphlet contre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Dans l'enregistrement audio partagé sur les réseaux sociaux, Tchala Mwana évoque l'élection du 30 décembre 2018 en semblant s'adresser au président Tshisekedi qu'elle ne nomme pas. Tu n'as pas remporté la compétition, le maître t'a laissé gagner et maintenant tu t'es retourné contre lui, ingrat. Jean-Roger Billon à ce micro, prochaines infos dans seulement...
La suite de nos informations en ce mardi 17 novembre. En Guinée, plusieurs membres du parti de l'opposant Seloud Alaine Diallo sont dans le viseur de la justice. Quatre opposants ont été inculpés lundi et placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Conakry. Tous sont accusés, entre autres, d'usage d'armes légères et de guerre. Les précisions avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Il s'agit de Selou Baldé, Étienne Soropogui, Ousmane Gawal et Abdoulaye Ba, tous membres de l'équipe de campagne de l'opposant Seloud Alaine Diallo. Après leurs auditions devant le cabinet d'instruction du doyen des juges au TPI de Dixine, les quatre opposants ont été inculpés, ensuite conduits en prison en attendant leur jugement. Ils sont poursuivis selon la justice guinéenne pour fabrication, acquisition, stockage, détention et usage d'armes légères et de guerre, détention de munitions, de menaces et association de malfaiteurs pour les zones de Kakimbo, Wanidara, Simantiri, Fofomere et Lambani canadien, des zones favorables à l'opposition guinéenne. Ces quatre membres de l'UFDG rejoignent Shérif Ba, l'un des vice-présidents du principal parti d'opposition, lui aussi inculpé pour les mêmes causes. Maître Salifou Biavogui, avocat de l'UFDG, se dit surpris et annonce une procédure devant la cour d'appel pour obtenir leur libération. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma s'est présenté hier devant une commission d'enquête anticorruption. Coup de théâtre, M. Zuma a demandé que le président de cette commission se récuse. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Jacob Zuma a droit à un juge impartial, a plaidé son avocat Mouzi Sikakane, soulignant que la présence de l'ancien chef de l'État démontre qu'il n'a jamais eu l'intention de remettre en cause l'autorité de la commission. Si M. Zuma se sent jugé, il exercera son droit à ne rien dire, a dit l'avocat, la commission n'étant pas un tribunal. Jacob Zuma a déposé une requête pour que le président de la commission, Raymond Zondo, se recuse, mettant en cause son impartialité à travers des liens personnels. Que M. Zuma ait épousé la sœur d'une femme avec qui j'avais eu une relation terminée plusieurs années auparavant n'a jamais eu d'incidence sur l'exercice de mes fonctions, a affirmé M. Zondo fin octobre. Depuis une apparition lors d'une convocation en juillet 2019, M. Zuma avait plusieurs fois fait faux bond, invoquant sa santé ou sa préparation juridique dans une autre affaire. La commission l'avait alors assigné à comparaître cette semaine. Jacob Zuma est soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État et accordé de juteux contrats publics à une famille d'hommes d'affaires, les Gupta. Englué dans les scandales, il a été poussé à la démission.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a salué lundi les nouvelles encourageantes sur le front des vaccins contre le COVID-19. Il a toutefois souligné que l'heure n'est pas à la complaisance. Abdourahmane Dia.
Lors d'une conférence de presse, Tedros Adhanom Ghebreyesus a rappelé que c'est un virus dangereux qui peut attaquer tous les systèmes du corps. Selon lui, les pays qui laissent le virus circuler librement jouent avec le feu. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a aussi dit qu'il restait prudemment optimiste quant à la possibilité que de nouveaux outils commencent à arriver dans les prochains mois. L'annonce lundi par la société américaine Moderna d'un vaccin efficace à près de 95% contre le COVID-19 apporte un nouvel espoir dans le monde où plusieurs pays continuent d'adopter des restrictions pour essayer de contenir la pandémie. Le chef de l'OMS s'est dit extrêmement préoccupé par l'augmentation du nombre de cas dans certains pays. En particulier en Europe et en Amérique, les travailleurs de la santé et les systèmes de santé sont poussés à bout, a-t-il relevé. Nous devons faire tout notre possible pour les protéger, surtout pendant cette période où le virus est en pleine expansion et où les patients remplissent les lits d'hôpitaux, a-t-il dit.
C'est l'heure de la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Au Togo, l'autorité de régulation des télécoms a mis en demeure les deux opérateurs de téléphonie, Togo Cellulaire et Atlantic Telecom Togo. L'ARCEP leur reproche de rendre les appels entre des numéros de leurs réseaux respectifs moins chers que ceux entre des numéros d'autres réseaux. Cette manœuvre pouvant décourager les appels vers le réseau concurrent nuit gravement à une concurrence loyale et saine dans le secteur, estime le régulateur national. En République du Congo, le projet d'appui au développement de l'agriculture a lancé lundi les travaux de réhabilitation de la piste Voka-Kimpanzu et réceptionné celle reliant Boko à Mandombe. Afin de faciliter l'écoulement des produits agricoles vers Brazzaville, à une centaine de kilomètres, ces projets devraient permettre aux agriculteurs et pêcheurs d'évacuer en temps réel les fruits de leur production. L'homme d'affaires israélien Dan Gertler, sous sanctions américaines, a annoncé dans une vidéo diffusée lors d'un point de presse lundi à Kinshasa, offrir à tous les Congolais le droit de partager les royalties de la compagnie minière de cobalt et de cuivre Metalcol au Katanga. Washington l'accuse d'avoir fait perdre à la RDC plus d'un milliard de dollars de recettes fiscales sous le régime de Joseph Kabila. Selon Bloomberg, Glencore paye à Gertler 2,5% des revenus provenant des mines au Congo, un droit que le mania israélien a acquis de la société minière publique GKMine.
La page des sports ce matin est l'affaire de Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021 reportés à 2022 se poursuivent ce soir. Les Aigles du Mali affrontent la Namibie à Windhoek. À suivre aussi, entre autres, Éthiopie, Niger, Lesotho, Bénin, Madagascar, Côte d'Ivoire, Soudan, Ghana, Angola, RDC, Centrafrique, Maroc, Togo, Égypte ou encore Sierra Leone, Nigeria. Et justement, l'ancien joueur de football de l'équipe nationale nigériane, Christian Obodo, a été enlevé dimanche à Wari dans l'état du Delta par des inconnus armés. Obodo avait déjà été enlevé dans la même région en 2012 et secouru le lendemain lors d'une descente de police passée par Pérouse, la Fiorentina et l'Udinese en Italie. En début de sa carrière, l'ancien milieu de terrain a achevé celle-ci en 2017 après une dernière pige en Grèce à l'Apollon Smyrnis. Hier, l'Iswatini a tenu en échec le Congo 0-0. Même score entre le Burkina Faso et le Malawi, 4-2 pour l'Afrique du Sud qui s'est déplacée à Sao Tomé et Principe, 1-0 pour le Soudan qui a reçu l'Ouganda. Les Zimbabwéens ont tenu en échec les champions algériens 2-2. Le Botswana a battu la Zambie 1-0, 2-1 pour la Gambie face au Gabon, 2-0 pour le Cameroun qui se déplaçait au Mozambique. Le Sénégal est la première nation à se qualifier sur le terrain pour cette CAN prévu au Cameroun en venant à bout de la Guinée-Bissau sur le score d'un but à zéro. Le Sénégal reste en tête du groupe I avec un parcours sans faute jusque-là. Basketball et nous prenons la direction de Kinshasa. Mauvaise nouvelle pour la RDC. Les Léopards Basketball messieurs, faute de moyens financiers, ne seront pas présents au Rwanda où ils devaient en principe prendre part aux éliminatoires de l'Afro-Basket Kigali 2021 prévus du 27 au 29 novembre prochain. De Kinshasa, la correspondance de Valdo Simon Yamba.
C'est une entrée réussie pour les champions en titre dans les deux versions à l'entame de la 37e Coupe du Congo de basketball qui a ouvert ses portes ce dimanche à Kinshasa au stade des Martyrs. Chez les messieurs, le basket club Mazembe a pris la mesure sur Dessampé en l'emportant largement 76-47. Une manière pour le Corbeau version basketball d'afficher l'ambition de conserver une fois de plus les titres gagnés l'année dernière. Chez les dames, la tenante du titre a elle aussi donné le ton. Dès sa première sortie, Makomeno du Katanga a infligé une véritable leçon de basketball à Tourbillon de Kinshasa, 64-29, score au terme de cette opposition. La compétition est lancée, les ambitions affichées, les adversaires à la conquête de ces deux titres nationaux sont avertis. Au total, 21 clubs prennent part à ce championnat national. 15 clubs chez le messieurs répartis en deux groupes de 8 et 7, dont les 4 premiers de chaque groupe auront les tickets pour les quarts de finale, tandis qu'un mini-championnat est de mise chez les filles. Kinshasa, Valdo Simon Yamba pour VOA Afrique.
Merci Yakuba, c'était la page des sports de VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. En votre compagnie, Jean-Roger Billon, place maintenant au dossier du jour. Les rivalités entre le Maroc et le Front Polisario pour le contrôle du Sahara occidental a des conséquences néfastes sur l'économie de la Mauritanie, pays voisin. Les fruits et légumes venus du Maroc sont soit introuvables, soit revendus à prix d'or. À Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop.
La Mauritanie n'est pas partie prenante dans le conflit opposant le Maroc au Front Polisario.
Mais en tant que pays voisin des belligérants, cela nous concerne.
L'approvisionnement du marché mauritanien en fruits, légumes et produits agroalimentaires qui s'est fait par voie terrestre est bloqué au point de passage des Gargarat à la frontière nord. En effet, le Maroc est la première source des importations du pays en provenance de l'Afrique, 44,3% au deuxième trimestre 2020.
On attend en vain l'arrivée des camions marocains.
La fermeture de Gargarat a mis en chômage beaucoup de vendeurs de fruits. On ne les voit plus. Ça, par exemple, vient du Maroc, mais par la mer et non par la voie habituelle. Trop cher donc pour les revendeurs, à plus forte raison pour une clientèle modeste.
Parmi la clientèle modeste, cette dame, agacée par la hausse des prix.
Tout est cher, les tomates et tout, rien n'est plus à notre portée. On est fatigué, il faut une solution à ce problème. Et puis seuls les pauvres souffrent, les riches, eux, ça ne les dérange pas.
Des économies se relativisent.
Après la construction de la route de Nouadhibou qui va vers le Maroc, il y a eu un apport des légumes et des fruits marocains qui ont en quelque sorte supplanter la production locale. Et de ce fait, avec la fermeture d'El Gargarat, il va y avoir de petites perturbations à court terme.
À long terme, la Mauritanie doit renforcer sa production locale.
Oui, la Mauritanie peut produire localement. Elle a l'eau, elle a les terres et elle peut aussi importer parce qu'elle a les ressources, elle a les mines, elle a une rente minière qui peut lui permettre d'importer tous ses besoins en matière donc de fruits et de légumes.
Le Maroc a repris le contrôle de Gargarat, mais pour éviter tout nouveau désagrément, la Mauritanie pense à une alternative maritime pour se ravitailler en fruits et légumes. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
VOA Afrique en direct de Washington.
En République démocratique du Congo, la diva de la musique congolaise Tchala Mwana a été emprisonnée le week-end passé au bureau de l'Agence nationale de renseignement, l'ANR. Il lui était reproché d'avoir sorti une chanson intitulée « Ingratitude » en pleine tension au sein de la coalition au pouvoir entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Sur la question, Eddy Isango a joint le porte-parole du gouvernement congolais, David Jolino Makelele.
Madame Tchala Mwana a été interpellée à la suite de la diffusion d'une chanson, d'une de ses dernières chansons, contenant des allusions de nature à porter atteinte à la vie privée de personnalités qui seraient concernées par cette chanson. C'est une demande d'explication, une demande d'expliciter sa chanson, d'autant plus que cette chanson n'est pas passée par la voie normale, la voie légale, à savoir que lorsqu'on produit une chanson, on passe par la commission des censures qui délivre une autorisation de production de cette chanson. Et donc, c'est pour éventuellement filtrer tout ce qui est indécent, tout ce qui n'est pas, qui est de nature à porter atteinte à la vie privée des uns et des autres, et même qui peut être attentatoire aux bonnes mœurs. Et on a constaté que cette chanson est diffusée alors qu'il n'est pas passé par ce créneau-là. Et par ailleurs, tout semble indiquer que ça porte atteinte à la dignité et à la vie privée des personnalités.
La chanson a été impersonnelle et parle d'un étudiant qu'un professeur fait passer des classes.
C'est la raison pour laquelle elle a fait l'objet d'une simple interpellation. Il n'y a aucune information judiciaire qui soit ouverte à sa charge, quitte à ce que elle a produit quelque chose en violation de la réglementation sur la commission, le tentatif de la commission des censures.
Et combien de temps restera-t-elle en détention ou interpellée?
Elle est interpellée, et donc elle est sous interrogatoire. Et je pense que d'ici là, si les informations qu'elle aura produites sont de nature à la disculper, à inviter, à prouver qu'elle a fait passer sa chanson à la commission des censures, censure, eh bien, elle pourrait recouvrer sa liberté.
Est-ce que c'est juste parce que ce n'est pas passé à la censure ou c'est parce que la chanson égratigne quelques personnes? On sait qu'on est en période de tension entre les CACH et les FCC.
Dans le droit positif congolais, il est prévu que lorsqu'un artiste, un musicien veut produire une chanson, cette chanson passe par le tamis de la commission des censures. Cette commission, qui relève du ministère de la Justice, est dirigée par un procureur général. Et cette commission essaie de voir si les propos, les mots, les indications qui sont données dans la chanson ne sont pas de nature à porter atteinte à la vie privée, à la dignité des gens et aux bonnes mœurs. C'est un passage obligé. Cela a été le cas, par exemple, d'un artiste très connu, Kofi Olomide, qui avait vu ses œuvres être censurées et lui-même a fait l'objet de poursuites judiciaires qui l'ont même amené à passer des périodes d'une arrestation préventive dans une maison de correction, plus exactement au centre de Makala. Apparemment, les autorités ont constaté, au niveau de la commission des censures, que tel n'a pas été le cas de la chanson qu'elle a mise sur le marché, la raison pour laquelle on l'a interpellée.
C'était le porte-parole du gouvernement de la RDC, David Jolino Makelele, au micro d'Eddie Sango.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, un nouveau documentaire braque les projecteurs sur les services infirmiers. Son titre, In Case of Emergency, traduisez en cas d'urgence. Ce travail est le fruit de 7 années de tournage à travers le pays. C'est un reportage de Karina Bravadzian, récit Jacques Aristide.
Kathleen Robinson est l'une des infirmières représentées dans le documentaire En cas d'urgence. Fille de médecin, Kathleen a également fini par consacrer sa vie à la médecine. La sortie du documentaire était prévue en mars dernier, puis la pandémie de COVID-19 a frappé.
C'était brutal, comme si une tempête nous passait dessus. Il y avait tellement de patients que nous ne pouvions presque pas suivre. On était débordés et c'était un défi pour nous parce que nous n'avions jamais vu ce genre de maladie auparavant.
Le film nous montre des infirmiers confrontés à toutes sortes d'urgences, dont celles liées aux violences armées, à l'abus des médicaments antidouleurs, aux opiacés et au coronavirus. 15 autres infirmiers figurent dans le documentaire, mais la réalisatrice Caroline Jones a également voulu une voix principale et elle a choisi Kathleen Robinson qui travaille dans un hôpital de Paterson dans le New Jersey.
C'est vraiment merveilleux d'avoir l'occasion de parler de ce que nous faisons et c'est aussi un peu effrayant de se voir dans un film.
L'infirmière n'aime pas parler du coronavirus, même pas avec sa famille, mais elle a fait une exception pour le documentaire et sa réalisatrice Caroline Jones.
Elle est tellement réelle et elle incarnait Covid. Je lui demandais de le revivre et comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. C'était horrible de lui poser toutes ces questions. J'avais l'impression de lui demander de revivre les pires jours de sa vie. Mais je sentais que c'était un peu cathartique d'une certaine manière, thérapeutique, le fait d'en parler à nouveau dans ce contexte.
Malgré toutes les difficultés, Kathleen Robinson dit aimer son travail, dévouée plus que jamais.
Je pense que prendre soin des autres fait partie de moi. C'est ce que je suis. J'ai un grand désir d'aider les autres et c'est merveilleux et passionnant. Et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. J'apprends quelque chose de nouveau chaque jour et je suis très reconnaissante de pouvoir partager la vie des gens quand ils ont vraiment besoin de quelqu'un. Donc, je suis infirmière à 100%. Il n'y a aucun doute.
In Case of Emergency, un documentaire qui tente à démontrer ce que l'on dit souvent des infirmiers. Sans eux, nous n'avons aucune chance.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Joe Biden, qui devrait devenir le 46e président américain en janvier, a promis de mettre un terme à la construction du mur le long de la frontière américano-mexicaine, une pièce maîtresse de la présidence de Donald Trump. Elizabeth Lee est allée sur le terrain. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
À Laredo, au Mexique, des agents surveillent plus de 2070 km de frontière entre les États-Unis et le Mexique. Des plans sont en place pour construire environ 113 km de murs dans cette zone. L'agent de patrouille en chef de Laredo, Mathieu Hudak, a déclaré que la barrière aiderait à combattre les groupes criminels qui font passer des personnes et de la contrebande aux États-Unis. Mathieu Hudak, chef de patrouille à Laredo.
Lorsque nous installons des systèmes muraux et que cela enlève cette rentabilité à ces organisations criminelles, c'est de l'argent qui ne repart pas au Mexique pour acheter les armes, les munitions qui sont utilisées pour endeuiller nos voisins de l'autre côté de la frontière.
Le président élu Joe Biden a déclaré qu'il ne démolirait pas les sections de murs construites sous le président Donald Trump, mais a fait cette promesse.
Il n'y aura pas un autre pied de mur construit sous mon gouvernement.
Selon le service des douanes et de la protection des frontières, 724 km de murs frontaliers devraient être achevés d'ici fin 2020.
Jessica Butler travaille à l'Institut des politiques de migration.
Le président Trump est toujours le président. Jusqu'au 20 janvier, d'ici là, nous pouvons nous attendre à ce que la construction du mur frontalier se poursuive.
Le service des douanes et de la protection des frontières affirme que la majorité des contrats ont été attribués et que la construction est en cours pour environ 1188 km de murs frontaliers financés à ce jour. Lorsque Biden prendra ses fonctions, les analystes disent qu'il aura des options en ce qui concerne les contrats non encore terminés.
Jessica Butler.
Son administration envisage peut-être de résilier les contrats en cours, peut-être même dans les endroits où la construction est actuellement en cours. Le gouvernement a beaucoup de marge de manœuvre pour le faire et pourrait généralement le faire assez facilement, parfois en payant des frais de résiliation aux entrepreneurs.
Le pouvoir du président Trump d'utiliser une grande partie de l'argent pour construire un mur frontalier est actuellement contesté et en attente d'une décision de la Cour suprême, même si beaucoup a déjà été dépensé. Cela peut être un point discutable sous une administration Biden.
Tony Payan de l'Institut Baker.
Je pense que ce sera l'un de ces problèmes qui trouveront une solution dans la transition politique. La décision de la Cour suprême n'a vraiment pas d'importance.
Biden a aussi fait cette promesse concernant les poursuites judiciaires engagées par le gouvernement contre les propriétaires terriens qui refusent de céder leurs terres pour le mur de Trump.
Retirez les poursuites. Nous sommes contre. Nous n'allons pas confisquer la terre.
Au lieu d'étendre les murs, les démocrates ont longtemps privilégié l'utilisation de la technologie pour détecter les franchises illégaux le long des plus de 3000 km qui composent la frontière sud de l'Amérique.
Joe Biden.
Je vais m'assurer que nous avons une protection aux frontières, mais cela reposera sur le fait que nous utilisons des capacités de haute technologie pour y faire face.
L'agent de patrouille en chef, Hudak, est favorable à une approche à plusieurs volets de la sécurité aux frontières qui comprend une barrière physique. Les opposants aux murs frontaliers disent que cela nuit aux écosystèmes, aggravant les inondations et coupant les sentiers pour les animaux, et que Biden devrait faire plus que stopper la construction des murs.
Tony Payan de l'Institut Baker.
Je pense qu'à certains endroits, il faudra peut-être le réduire. Les dommages sont tout simplement trop graves pour l'environnement.
En plus des facteurs environnementaux, les analystes affirment que Biden devra non seulement équilibrer les facteurs sécuritaires et humanitaires à la frontière, mais également les problèmes de santé publique provoqués par la pandémie.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Burkina Faso aux urnes ce dimanche. Les électeurs choisissent leur président et leurs députés à l'issue d'une campagne dominée par la question sécuritaire. En effet, le pays connaît depuis 2015 une série d'attaques djihadistes. Comment le sujet sur la sécurité est-il abordé par les 13 candidats à la présidentielle? Quels sont les autres thèmes abordés lors de cette campagne? Comment les Burkinabés voient-ils ces élections? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 19 novembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous. Au revoir.